Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Les deux derniers contre-histoires ont planté le décor d'une très vilaine affaire d'État qui remonte à la cohabitation Chirac-Mitterrand. Vous avez pu goûter l'ambiance, mais vous ne pouvez pas encore imaginer jusqu'où cette guerre que nous raconte Dominique Lorenz, jusqu'où cette guerre va aller. Nous y reviendrons très vite.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Mais pour aujourd'hui, on va tourner le dos à ce milieu politico-mafieux pour s'occuper de nous, des vôtres et des nôtres, de nos familles, de nos proches, qui ont besoin d'aide et de sollicitude. Pour ça, nous allons retourner au blog du chroniqueur social Yves Faucoux, qui nous présente sur Mediapart la belle vie de son père, disparu récemment en des circonstances, encore une fois, à faire honte à toutes nos institutions. Ouvrons le blog d'Yves Faucoux. Mon père s'en est allé. Il vivait seul dans la maison de mon enfance, aidé et entouré. Il allait sur ses 104 ans. Il est parti le vendredi 29 juillet 2022. Sa longue vie est un peu une revanche sociale. Lui qui était entré à l'usine à 13 ans, contre son choix. Tenant la vie ouvrière à distance, tout dévoué à sa famille, cet homme de parole, qui s'était cultivé par lui-même, aimait transmettre ses savoirs. Quelques jours avant sa mort, il avait rejoint un EHPAD après un passage à l'hôpital. Entré pour une occlusion avec douleur à la colonne vertébrale, il y a contracté le Covid dès les premiers jours de son hospitalisation. Alors que tant de précautions avaient permis de l'épargner depuis 2 ans et demi. Né à la fin de la Première Guerre mondiale, le 4 octobre 1918, il avait d'abord échappé à la grippe espagnole, qui avait affecté une partie de sa famille. À l'âge de 8 ans, opéré d'une appendicite, il frise la mort, car il faut d'abord crever un énorme abcès, à une époque, en 1926, où la pénicilline n'existait pas. Il aggrave son cas avec une péritonite dans la foulée. Il se souvenait de ses parents, priant pour sa survie. Quand il le croyait endormi, il cessait de prier. Alors lui, ouvrant un œil, leur disait « Continuez, le petit Jésus m'a pas guéri !» Plus tard, quand le médecin de famille, dont une rue de Saint-Chamond porte le nom, quand ce médecin de famille le croisait, il lui disait, gratouillant sa tignasse, « Alors, trompe la mort !» Son père, Clément, avait été élevé par ses grands-parents, car suite au décès de sa mère, toute sa fratrie avait été placée à l'assistance publique, sauf lui. Le père, Joseph, était pudleur, à la compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt à Saint-Chamond, dans la Loire, comme chacun sait. Métier qui consistait à affiner la fonte en fusion en la brassant à l'aide d'un ringard, un long crochet. Il s'agit de la fonte en fusion, je ne sais pas si vous imaginez. Clément, avant d'entrer dans cette même usine, avait effectué des études dans une école professionnelle catholique. Sa mère, Célina, venait de l'Ardèche. issue d'une famille de paysans pauvres, métayers, elle-même ayant travaillé dès l'âge de 12 ans comme gardienne de troupeaux à 40 km de chez elle, chez des éleveurs de porcs de la Drôme. Célina avait été recrutée comme domestique, bonne à tout faire, ménage, jardin, chez des industriels du textile qui étaient domiciliés rue de la Pichelière à Saint-Chamond, où vivait Clément. C'est dans cette petite ruelle pentue que mon père est né. Il est le troisième et dernier enfant, tous des garçons. Tout près, sur la colline, il y avait le clos Marquet, son crassier et son puits de mine dont les galeries serpentaient sous les habitations, ce qui provoquait chez mon père, enfant, des cauchemars, s'imaginant disparaître avec son lit dans les galeries sans fond. Il racontait tellement d'histoires sur les habitants de la Piche, pour laquelle il avait une véritable dévotion, sur ce qui s'y passait, sur les métiers qui s'y côtoyaient, sur les rapports des gens entre eux, qu'on pourrait en écrire un roman. Il avait passé beaucoup de temps à tout observer du haut d'un muret auquel il accédait en grimpant sur un buttereau, ces dispositifs qui permettent de bloquer un véhicule sur une rue pentue. Une photo le montre 90 ans plus tard au même endroit. Les épiciers, le cordonnier au pantalon rouge datant de la guerre de 70, le passementier qui avait inventé un système pour réaliser des broderies à bon marché pour trousseaux de mariage, le bistrot où les jours de marché, place Saint-Pierre, s'entassaient les charrettes enchevêtrées les unes aux autres et les chevaux dans une grange remplie de foin, les mineurs, noirs comme le charbon rentrant chez eux, et les charrois remplis du minerai, tirés par des percherons descendant la ruelle, freinant des quatre fers. Les femmes se rendant avec des cruches à la fontaine, car l'eau venant du barrage n'était pas encore sur l'évier des ménages modestes. Sans oublier la guinguaine, sans domicile fixe, et l'allumeur de réverbère avec sa grande perche. Il avait obtenu le certificat d'études décerné par une école privée catholique, puis était entré comme apprenti tourneur, contrat signé le 1er août 1931, alors qu'il n'avait pas encore 13 ans. Contrat signé aux aciéries de la marine qui fabriquaient tracteurs, locomotives et chars dits de Saint-Chamond, de la Grande Guerre, futur Creusot-Loire. Le patron de l'usine, Joseph Rederer, père de la future grande résistance Hélène Rederer, morte à Ravensbrück, qui avait signé le contrat, s'engageait au nom de la compagnie à se conduire vis-à-vis de lui en bon père de famille, à le traiter avec douceur. Le premier semestre, il percevait 3 francs par jour, pour grimper jusqu'à 10 francs au bout de 2 ans et demi. Et des primes variables suivant la qualité de son travail et ses résultats aux examens. Il ne percevait de sa mère qu'un peu d'argent de poche, juste pour s'acheter zig et puce. Mais au bout de 3 ans, l'argent économisé représentait 260 francs, soit le prix exact du vélo qu'il put s'acheter à 16 ans. S'il n'avait pas respecté le contrat, ses parents auraient dû s'acquitter de 20 francs par mois d'apprentissage effectué. Il retrouve dans les ateliers de son père 2 frères aînés, tous tourneurs sur métaux. Vous êtes toujours sur Canal Sud, 92.2. En mars 36, une photo le représente avec des camarades et ses 2 frères dans l'usine occupée. Je pourrais prétendre que mon père a fait mai 36, mais la réalité est plus prosaïque. Célina, qui collectait les salaires de ses 4 hommes, habituée à travailler dur, elle était l'Ardèche rugueuse, estimait mon père. Célina ne pouvait se satisfaire de voir sa maisonnée se la couler douce au sein d'un piquet de grève. Elle, ceci dit en passant, dont le nom de famille était Grève. Elle exigea qu'ils reviennent tous à la maison, construite en 1930, avec du terrain autour. Il y avait des travaux à accomplir au potager, bêcher, biner, récolter. C'est dans cette maison, en 1931, que mon père, qui n'avait connu jusqu'alors que la bougie et la lampe à pétrole, voit apparaître l'électricité. Un peu avant 20 ans, il passe le conseil de révision. Nu comme un ver, comme c'est conscrit, il doit défiler devant le conseil municipal, composé d'hommes et de femmes. Pour éviter d'abîmer le plancher, des journaux punaisés ont été étalés sur le sol. 80 ans plus tard, il se souvenait encore, non seulement de la honte subie, mais aussi du cri poussé par un de ses copains qui s'était fichu une punaise dans le pied. Incorporé en novembre 38, normalement pour un an d'armée, il effectue 3 ans de service militaire, dont 2 pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que ses frères, plus âgés, n'avaient fait qu'un an d'armée. Il séjourne 3 mois à Montoire. La caserne est installée dans un ancien monastère, très étonné plus tard que Pétain ait pu recevoir Hitler dans une gare d'une si petite ville. Il est affecté au Colombo. C'est un régiment de colombophiles, car il avait eu la bonne idée de s'intéresser aux pigeons avant-guerre. Il passe son temps à déplacer les arabes et les pigeons, seulement pour des vols d'entraînement sur des parcours de plus en plus longs. Il se plaint juste qu'un adjudant, salopard, qui les faisait bagoter, marcher au pas, car pragmatique, il considérait que cela ne servait à rien. Ses affectations, Grenoble, Avignon, Mérargues, à s'occuper des colombes ne le conduiront pas sur des zones de guerre. Le danger, il le connaîtra avec ma mère, enceinte de son premier enfant, tous deux réfugiés avec leur propriétaire dans une tranchée creusée dans un jardin, le 26 mai 1944, quand les avions américains volant à haute altitude bombardent Saint-Étienne, ratant leur cible, la gare et la manufacture d'armes, et faisant 925 morts civils, dont 99 enfants. Il est libéré en novembre 1941. Comme son père sait qu'il n'a pas choisi d'être tourneur, qu'il y a été contraint et forcé par tradition familiale, il lui suggère d'aller voir un tailleur de vêtements, métier que mon père aurait tant aimé exercer. Sauf que pour lui, c'est trop tard. Il aurait fallu l'envisager plus tôt. Il a 23 ans. Ce n'est plus le moment de se lancer dans un apprentissage. Il aimera toute sa vie la couture et les tissus. Il aidera ma mère qui confectionnait tous nos vêtements. Il achètera une machine, réglant les plots, les crochets et les fils de laine pour nous tricoter nos nombreux pullovers. Enfant, il avait joué à la poupée grâce à sa grand-mère de Boffre dans l'Ardèche. Grand-mère qui voyageait en train avec des sabots noirs vernis, mais n'avait pas de préjugés de genre, puisqu'elle lui avait offert ce jouet, comprenant que ça lui ferait plaisir. Il conserva l'une de ses poupées qu'il habilla avec minutie alors qu'il était déjà âgé. Une de ses petites filles raconte que pour se choisir des vêtements, elle n'hésitait pas à faire les magasins avec lui. retrouvons l'histoire, la belle histoire de ce monsieur Foucault sur notre contre-histoire. On est au printemps 1942. Il a envie d'aller voir ailleurs, de quitter les aciéries. Ou à son retour du régiment, on veut le contraindre à travailler sur une machine difficile à manœuvrer. Il décide alors de rejoindre son frère aîné, qui réside depuis peu à Saint-Tropez, non encore investi par la Jet Set, après avoir été embauché par l'usine des torpilles de Gassin, antenne de l'arsenal de Toulon, située tout près de Saint-Tropez. Il n'est pas très bien payé, 1500 francs par mois. Il décide alors, en accord avec sa future épouse, ma mère, de rentrer après avoir décroché un poste dans une usine de Saint-Étienne qui a fait passer une annonce dans un journal du Midi en pleine guerre. La SEM, SCE2M, Société de Construction et d'Exploitation de Matériel et Moteurs, qui deviendra plus tard filiale de Citroën. Cette SEM, après lui avoir fait subir un test, lui propose 3 000 francs mensuels du fait d'une rémunération horaire plus élevée, passant de 10 à 12 francs 50 de l'heure, auquel il fallait ajouter une prime qui portait le salaire horaire à 17 francs. Mais aussi à une durée de travail plus longue, passant de 8 heures à 9 heures et demie. Il est directement classé P2, plus tard P3, puis HQ, haute qualification dont il est très fier et qui ne lui imposait plus un temps déterminé pour réaliser une pièce. À Noël, chaque année, l'usine fermait pour inventaire pendant une semaine de vacances. Mais le 11 novembre 1942, les Allemands ayant pénétré en zone jusqu'alors non occupée, font un inventaire sur une durée plus longue et ne rouvrent l'usine que début février 1943, les ouvriers étant payés cependant pendant cette période de travail. Son père décède à 59 ans le 1er février. Assistant aux obsèques, il ne peut reprendre le travail le vendredi comme prévu après cet inventaire. Lorsqu'il revient le lundi, un contremaître, connaissant la raison de son retard, lui dit « Vous en prenez à vos aises !» Cette phrase n'a cessé de résonner en lui comme une agression impardonnable. Centenaire, il la citait encore régulièrement. Occasion pour lui de me dire « L'usine est un esclavage. Les contremaîtres ont toujours été imbuvables, bien que tous issus du rang. » Il a fallu attendre 2 ans avant son départ en retraite pour qu'un ingénieur le respecte et vienne le saluer. En effet, il avait su réaliser sur son tour des joints à partir d'une plaque en caoutchouc, au grand étonnement du bureau des méthodes qui ne savait pas comment procéder. Mon père avait vu jadis son propre père fabriquer un outil spécifique pour découper les joints, ce qui lui valut les félicitations des ingénieurs stupéfaits. « Mais pas pour autant une prime », constatait-il avec amertume. Il travaillait surtout le bronze, qui nécessitait une grande précision, car à la différence de l'acier, il ne peut être rectifié, étant à la fois mou et dur. Il encrasserait les meules. La qualité devait être vérifiée à la loupe. Il pratiquait comme ses copains la perruque, pratique ouvrière que j'ai décrite dans « Le travail en usine pour soi » sur ce blog. Pratique qui consistait pour les besoins de la maison à confectionner des pièces en bronze le plus souvent sur son tour, souvent avec l'autorisation des chefs qui n'étaient pas les derniers à demander aux ouvriers qualifiés de leur rendre ce genre de service. Ce travail en métallurgie n'était pas pour lui un choix, mais une contrainte, un asservissement. Si une tâche difficile était à accomplir, au petit matin, il se réveillait préoccupé par ce travail qu'il faudrait réussir. Chaque jour était un mauvais jour à l'usine, sauf lorsque j'avais un travail intéressant à faire, me confie-t-il à 99 ans. Il lui fallait parfois soulever des charges très lourdes, au point qu'en 1942, il se provoque une hernie. quand en 1944 il doit travailler à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la MAS, la Manu, à ne pas confondre avec Manu France. Manufacture qui, comme la SEM, fabrique des munitions pour les Allemands. Les conditions d'hygiène à la cantine sont si catastrophiques qu'il y contacte une paratyphoïde. Après une journée et une nuit de travail, il aspirait à tout oublier. Il racontait que lorsqu'il travaillait de nuit, il quittait l'usine à 5 heures du matin, demeurant en ce temps-là à proximité de l'usine. Avant de regagner son domicile, il s'asseyait sur un banc de pierre dans la rue, adossé à une propriété où, dans des arbres majestueux, des rossignols chantaient. Il restait là longuement à les écouter. Il décrivait, admiratif, toutes les gammes musicales mélodieuses dont ces oiseaux sont capables. À cette époque, il habitait Saint-Étienne, ville qu'il aura parcourue en long et en large. Il en connaissait tous les quartiers, toutes les rues. Sa réticence envers le travail d'usine qu'il n'avait pas choisi explique certainement qu'il n'avait pas un attachement particulier au monde ouvrier. Pas plus qu'en mai 36, il n'a participé au piquet de grève de mai 68. Il aspirait comme tant d'ouvriers à s'en extraire et à connaître un mode de vie de la petite classe moyenne, avec la maison qu'il fait construire en 1952, en calculant bien les moyens qu'offre le crédit immobilier, plutôt intéressant, avec remboursement constant sur 30 ans, bénéficiant ainsi d'une forte inflation. Et la voiture, traction Citroën 11 familiale, avec strapontin, pour voyager à 8, parfois à 11, avec tante et grands-parents. Si son père était ouvrier, sa mère est d'origine paysanne, catholique, éloignée des solidarités ouvrières. « Ma mère, dans la famille, était plus aisée », m'a dit un jour, approuvé par mon père. « On était plutôt à gauche, car on est des ouvriers, c'est plus normal. » Ajoutant aussitôt, « Mais je suis à moitié l'un, à droite, à moitié l'autre, à gauche. » Et lui m'a confié, « Les bourgeois n'ont aucun mérite, parce que ce qu'ils ont gagné, ils l'ont pris à d'autres. » Et comme il était facétieux, il se levait parfois de son fauteuil en proclamant « Debout les damnés de la terre !»
Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec 10 hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde. Avant il en fallait 30, c'était pas rentable. On voit la 20 au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-la-la-la. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantes, à Rennes ou à Brest, du travail il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux, alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, ralalalalère. Même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-la-la-la. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères.
On le sait, le souhait de mon père le plus profond était de sortir de l'usine, dont il ne parlera jamais à la maison. Ce n'est que plus tard que l'on a pu tirer quelques bribes d'informations, comme le fait qu'il respectait les temps impartis pour l'exécution d'une pièce, sans chercher à en faire trop, reprochant à certains de bomber pour finir plus vite et décrocher une prime. Il savait très bien que les chronométreurs venaient avec un air détaché auprès de l'ouvrier, mesurant le temps nécessaire pour réaliser une pièce en actionnant leur chronomètre caché dans la poche. Il fut un temps affecté dans un bureau où il lui fallait calculer les temps exigés aux ouvriers. Il n'a pas aimé et a demandé à retourner à l'atelier. Il avait cependant quelques bons amis ouvriers. Mes parents les recevaient ou se rendaient chez eux, y compris quand l'âge de la retraite aurait sonné. Mais la plupart de leurs connaissances étaient liées à l'histoire familiale, amicale, paroissiale. À 100 ans passés, ils se demandaient souvent ce qu'un tel était devenu, croyant, contre toute vraisemblance, qu'il était peut-être encore de ce monde. Un jour cependant, il me donna le nom et prénom d'une enfant qu'il avait connue à l'école maternelle. Il se souvenait également avec précision du nom de la directrice et de l'institutrice. S'il peinait avec la mémoire récente, la mémoire ancienne était stupéfiante. Après une recherche rapide sur Internet, je découvrais que cet enfant venait de fêter ses 100 ans à Nice. Tout concordait. Lui en avait alors 101. Pendant si longtemps, il a dû se lever à 5h du matin pour pointer à 7, après un parcours de bus et de tram. Quand, sous Giscard, il a dû prendre une retraite anticipée à 60 ans après 47 années d'usine, avant même la loi promulguée par la gauche en 82, il a signé des deux mains. Le but de mes parents a toujours été que nous ayons des métiers qui ne nous contraignent pas à l'usine et qui correspondent le plus possible à nos aspirations, dans la limite de leurs possibilités à nous accompagner dans ces choix, ce qui n'était pas pour nous une contrainte, mais une évidence. Il ne nous venait même pas à l'esprit de contourner ou de contester cet état de fait.
Ici Contre-Histoire, vous êtes toujours là?
Mes parents étaient guidés par la nécessité. Ils cultivaient un jardin potager de 600 mètres carrés. Ils y passaient beaucoup de temps, levés tôt en été pour arroser à la fraîche, ramasser les haricots, cueillir les fraises. Mon père retournait la terre, ma mère faisait des conserves pour que leurs enfants bénéficient d'une nourriture plutôt saine. Mais mon père, faisant le bilan, avouera bien plus tard que ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. Ce qu'il aimait plus que tout, c'était les fleurs, ses rosiers, la glycine, les clérodendrons trichotonomes, ces beaux arbres à fleurs odorantes qu'il avait ramenés du Midi. Et aussi les cactus, au point qu'il avait donné ce nom à sa maison, que nous avons toujours appelée ainsi. Passion qui lui était venue enfant, lorsqu'il allait chercher le journal chez les concierges d'Antoine Pinay, l'ancien ministre des Finances de De Gaulle, qui instaura le nouveau franc et qui fut très longtemps maire de Saint-Chamond. Ils adoraient les plantes grasses et en offrèrent mon père, qui était nullement rebuté par leurs aiguillons. Cette vie de labeur n'a pas empêché mes parents d'envisager des vacances avec location dans les Alpes tout le mois d'août, du 1er au 31. Mon père n'était pas le dernier à crapahuter dans la montagne. Mais n'ayant que 3 semaines de congé, il laissait l'attraction et se coltinait un retour en train compliqué avant de revenir une semaine plus tard nous chercher. Il n'était pas question de faire perdre à ses enfants un seul jour de vacances. Il connaissait par cœur poésies et chansons, une bonne centaine, parfois longue, une demi-heure de récitation, que nous avons regroupées dans un recueil qui a dû sans cesse être complété. On ne sait pas exactement où et quand il les avait apprises, peut-être pour beaucoup, à une époque où la jeunesse se retrouvait, parfois dans de longues balades, au cours desquelles chacun faisait montre de ses compétences. L'un des poésies, un oncle le chant, l'autre oncle la prestidigitation. Ses camarades d'atelier lui disaient parfois en fin de journée « On t'a vu réciter tes poésies ?» alors qu'il s'affairait sur son tour. Il avait lui-même écrit quelques poésies dédiées à notre mère, durant leurs fiançailles. Cependant, il n'était pas dans l'écrit. Nous n'avons jamais reçu une lettre de lui, mais dans la transmission orale, ce qui explique peut-être son étonnante mémoire. Quelques mois avant sa mort, il m'a récité une très longue poésie. J'en ai conclu que ce n'était pas une mémoire mécanique, car les modifications légères qu'il introduisait restaient tout à fait en phase avec le sens du texte. Ces dernières années, un simple mot déclenchait la déclamation d'un texte court ou long, d'un proverbe, d'une maxime, d'un bon mot. Certains textes sont introuvables sur Internet. Si on lui demandait « Qu'est-ce que tu vois ?», il pouvait répondre aussitôt « Je vois la route qui poudroie et l'herbe qui verdoie dans son barbe bleue. » Il connaissait quelques chansons paillardes qu'il disait avoir apprises en maternelle. Au jeu télévisé, il était extrêmement rapide, tant aux chiffres qu'aux lettres. Il était fanat de mots croisés. Je me souviens qu'un dimanche de mon enfance, où nous avons fait tous les deux ensemble des mots croisés toute la journée. Jusqu'à la fin, il a fait des mots fléchés et bluffé tout le monde avec sa célérité pour trouver la solution. Sa vue ayant beaucoup baissé, il ne regardait pas la grille. Il suffisait de lui dire le nombre de cases, les lettres éventuellement déjà trouvées, et il visualisait le tout dans sa tête. Il avait participé à des chorales et avait lu des romans populaires. Curieux et modeste tout à la fois, il était cultivé. On l'a constaté souvent sur le tard. Il était cultivé au point qu'on se demandait comment il avait tant appris et tant retenu. Il était sans complexe et avait un regard acéré. sur ceux qui se croient supérieurs.
Dites-moi, mon bon Seigneur, ne serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents, nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon Seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet, qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terreurs jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon Seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus, d'un revers de la paume la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé, en quelques décennies, la valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire? Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Il avait acquis avec la vieillesse un humour incroyable. Jeu de mots du tac au tac ou questions à des tiers tels que: qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants si vieux? D'ailleurs, il m'avait dit un jour que si j'entrais en maison de retraite, il viendrait me rendre visite. Sous réserve que je revienne au pays et que je ne reste pas dans cette ville si lointaine pour lui, Auch, qui s'ingéniait à nommer Moche, pour me reprocher d'y vivre. Il n'était pas avare de facéties, comme tendre son bras pour qu'on l'aide à sortir du lit et tirer avec une force incroyable pour que l'on tombe sur lui. Il était aimé des aides à domicile, attentive, dévouée, patiente, qui appréciait sa gentillesse, ses plaisanteries, ses souvenirs répétés et son bon caractère, pas grognon du tout. Elles étaient sept le jour de ses obsèques, dont l'une était en retraite depuis 3 ans, présence particulièrement émouvante. Je pourrais lister encore longtemps, car durant ces années, nous n'avons cessé de relever ses souvenirs et de remplir des pages de carnet et d'ordinateur. Il nous disait « Tu veux pas noter ça ?» Surtout de la période qui va de son enfance à son mariage en 1943. Il l'avait d'ailleurs raconté dans un livre de souvenirs édité dans le cercle familial. pour après, il considérait que nous étions là, ses 6 enfants, et donc que nous savions ce qui s'était passé. Quant à la vie à l'usine, c'était si peu intéressant que j'ai tiré un trait. Nous mesurions la chance d'avoir un père et une mère qui ont pu nous raconter tant d'histoires, répondre à tant de questions. Elle nous a quittés il y a 4 ans, à 95 ans. Lui a poursuivi sa route, rappelant de temps à autre qu'ils s'étaient connus, elle à 8 ans et lui à 12, déjà un peu amoureux, avant d'avoir 6 enfants, 18 petits-enfants. Et bientôt 36 arrière-petits-enfants, soit une multiplication à la 6-3-2, avec lesquels il avait des rapports incroyablement chaleureux. Durant de nombreuses années, ils ont reçu un jour de la semaine, pour le repas de midi, 6 ou 7 de leurs petits-enfants scolarisés qui ne rataient jamais le rendez-vous et qui en conservent un souvenir ébloui. Lui, comme elle, était, je crois, de belles personnes. Bien sûr, je ne suis pas objectif pour le prétendre. Peut-être que nous pensons toujours ça de nos parents. Je sais que certains se reconnaissent dans ce propos. Mais je n'ai jamais imaginé, ni constaté, qu'ils aient pu commettre la moindre malversation. Leur morale n'était pas ostentatoire. Elle était naturelle. Je serais tentée de dire « populaire ». Elle coulait de source. Ils étaient honnêtes et ne proféraient aucune injonction. Ils nous éduquaient par leur manière d'être. Je ne me vante pas en disant cela, je n'ai aucun mérite d'avoir eu de tels parents, je leur rends simplement hommage. Comme je veux rendre ici hommage à celles et ceux, ma sœur Eliane et mes 2 frères qui étaient tout proches, les aides à domicile, les infirmières, celles et ceux qui ont permis qu'ils restent si longtemps dans leur maison, mon père presque jusqu'à la fin. On avait fini par croire qu'il était immortel. Et qui sait, peut-être nous aussi, va falloir se faire une raison. Je me souviens que jadis, quand il rentrait de l'usine, il lisait dans la presse les avis de décès de ses camarades partis en retraite, parfois depuis quelques années seulement. J'ai souvent pensé à cette scène, considérant, à tort ou à raison, qu'avoir pu jouir de sa retraite dès 60 ans lui avait permis d'en bénéficier davantage. Il riait à l'idée qu'il contribuait à creuser le trou de la sécu. Je suis tentée de dire que sa longue vie m'est apparue comme une revanche sociale. Il va terriblement nous manquer. J'aimerais tellement en dire plus encore, raconter tant d'histoires, de témoignages, d'anecdotes, dont certaines plus personnelles, plus intimes. Mon souvenir n'est pas triste, pas hanté par l'image de sa mort, mais habité par son affection et la vivacité de ses paroles. Consolé aussi qu'il n'ait pas trop souffert. Comme tout le monde, il voulait mourir dans son sommeil. Il avait demandé expressément qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Il m'avait dit, à 101 ans passés, qu'il ne s'interrogeait pas sur la vie éternelle. Je verrai ce qu'il en est quand l'heure sera venue, mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Considérant cependant qu'il avait fait sa vie, qu'il était parfois fatigué, il ne craignait pas de partir, se demandant si on ne l'avait pas oublié là-haut. J'en finis pas de vieillir, mêlant dans ses propos tristesse et plaisanterie. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle et selle de cheval. Il m'est arrivé quelquefois d'évoquer le fait que mon père était ouvrier. J'espère qu'il n'est jamais apparu que cela signifiait que je m'en enorgueillissais. Je récuse l'instrumentalisation que certains font de leurs origines modestes, ayant vécu dans la précarité, sinon la pauvreté, noircissant éventuellement le tableau pour que ça fasse plus prolétaire. Car je ne considérais pas que mes parents étaient pauvres. Bien sûr, ayant connu durant ma scolarité des camarades de classe issus de familles riches, souvent imbus d'eux-mêmes, et de leur prétendue supériorité, bénéficiant de moyens démesurés. Je comprenais ce que « riche » signifiait de morgue et d'autosuffisance. Mais cela ne me renvoyait nullement l'idée que je vivais dans une famille pauvre. Certes, je voyais bien que ma mère, tous les soirs, faisait les comptes sur un vieil agenda et qu'elle semblait tirer le diable par la queue. Mais cela m'amenait simplement à supposer qu'être adulte, c'était difficile. Je redoutais le temps où je devrais aussi faire mes comptes. Cela me paraissait être la condition générale, excepté pour quelques privilégiés. À l'obtention du bac, un élève de ma classe a eu une voiture de sport, offerte par ses parents. Moi, strictement rien. Très sincèrement, j'en suis très fière. Fière d'avoir eu des parents qui ne se posaient même pas la question de savoir si la réussite justifiait un cadeau. Fière de leur sens naturel de l'éducation. Il y a quelques années, formateur puis directeur d'une école d'assistants sociaux, j'ai entendu un jour des étudiants et étudiantes dire qu'une famille était pauvre puisqu'ouvrière. Ça m'a glacée. Cela m'en disait trop sur la façon dont la classe ouvrière était désormais traitée et perçue dans notre société. Vous êtes toujours sur 92.2 Contre-Histoire à Radio Canal Sud. J'espère que vous êtes toujours là. Dans le débat actuel sur les manques flagrants à l'hôpital, voir le témoignage de Madeleine Riffaut, grande résistante, décrivant dans une lettre ouverte ce qu'elle a vécu à l'hôpital Lariboisière, à consulter dans ce blog. Ce qu'a subi mon père mérite d'être cité. Il a été hospitalisé fin juin dans un hôpital de la Loire, pour une occlusion intestinale entraînant des douleurs corporelles et pour laquelle il a fallu plusieurs jours pour qu'elle soit traitée efficacement. 3 jours après l'admission, cependant, il mangeait avec appétit un repas normal, aidé par la famille, et se levait pour aller seul aux toilettes. Puis, au bout d'une semaine, lui qui avait échappé au Covid du fait des précautions sérieuses prises depuis 2 ans et demi, outre la vaccination, il a attrapé la maladie, contaminé officiellement par un malade présent dans sa chambre. Mais on sait que plusieurs soignants étaient positifs au test. Ce qui, selon un protocole national mortifère, a provoqué l'interdiction pour ses enfants de le voir et donc de l'assister dans des actes que l'hôpital n'assurait pas. Ils redoutèrent alors que leur père meure de soif et de faim, plus que du Covid. Quand au bout de 10 jours, ils ont pu à nouveau l'approcher. Il était très affaibli. Manifestement, on ne lui avait pas donné à boire, ou si peu, alors qu'à son domicile, il buvait de lui-même régulièrement. Ni à manger, il n'avait pas été aidé pour s'alimenter. Une de mes sœurs, un de mes frères se sont à nouveau relayés pour l'assister au repas, mais c'était trop tard. Pour certains soins indispensables et pour lui assurer une position adéquate dans son lit, il fallut réclamer avec insistance. Pour la position adéquate et de bon sens, il fallut y procéder, à son grand soulagement, sans attendre une intervention hospitalière qui ne venait pas. Ce manque de soins évident qu'a subi mon père relève certainement d'un manque d'effectifs. Mais cela a été perçu aussi comme un manque d'empathie de certains soignants. Après tout, un homme de près de 104 ans ne justifie sans doute pas qu'on lui consacre trop de temps. Rancœur injuste ? Non, car on a pu constater l'empathie des soignants de l'EHPAD, où il a été accueilli en phase finale, peu avant de s'éteindre, mais où il lui a été prodigué des soins spécifiques que l'hôpital n'avait pas assuré. Évidemment, ce que j'écris là est très résumé et très mesuré. Le diagnostic complet serait beaucoup plus sévère. Une enquête de Louis Bronner dans Le Monde du 10 août dresse un tableau accablant de la gériatrie en France et rend compte du cri lancé par les gériatres parlant d'une descente infernale. Il écrit dans son article : des dizaines de milliers de personnes âgées deviennent dépendantes chaque année en raison d'une prise en charge insatisfaisante dans des moments clés de leur hospitalisation. C'est archi-faux de dire qu'on vieillit bien en France, alerte des gériatres sur les soins aux personnes âgées. Voilà, ce contre-histoire s'achève. C'était aujourd'hui un hommage à un grand-père de nos rêves. Et c'était aussi un cri de colère contre le ou les pouvoirs qui négligent tant ce troisième ou quatrième âge auquel ils doivent pourtant tout. À bientôt. Nous retrouverons la semaine prochaine Dominique Lorenz et ses terribles secrets.